Chers amis, ne nous lassons pas de relire le début de la première épître de Pierre, puisque l'enseignement des Écritures comporte dans son programme la répétition. Donc nous répétons cette lecture depuis hier après-midi de 1 Pierre 1. Versets 14 à 17, 1 Pierre 1, versets 14 à 17. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Nous allons vers le livre du prophète Ésaïe, qui vient d'être mentionné en introduction à cette quatrième étude dans le cadre de ce week-end. Ésaïe chapitre 6. Passage crucial dans le livre, comme nous allons le voir dans l'histoire, dans l'itinéraire du prophète Ésaïe, incontournable, révélateur. Donc nous ne pouvons le passer sous silence. Et je lis pour vous, donc Ésaïe 6, les 7 premiers versets. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié, couvert, effacé, annulé. » Nous posons depuis la seconde partie de notre étude d'hier soir la question suivante, mais pourquoi donc cet impératif « Soyez saints » ? Et nous avons fortement souligné dès hier soir cet adage tel père, tel fils. En nous appuyant sur le vocabulaire utilisé par l'apôtre Pierre, qui, quelque part, cadenasse l'impératif entre deux mots forts, bien sûr liés l'un à l'autre, je veux parler du terme enfant d'une part et père d'autre part, enfant au verset 14 et père au verset 17. Vous êtes né de Dieu, nous l'avons répété ce matin, vous avez changé de père, vous avez été adopté par Dieu, vous êtes devenu participant à la nature divine, ce que le même apôtre Pierre dira de la part de Dieu dans 2 Pierre 1, 4, non pas dans une sorte de fusion. Vous souvenez, nous avons évoqué le monisme, le panthéisme, donc nous n'avons pas le droit d'interpréter ce texte de participation à la nature divine sous cet angle-là, ce serait complètement contraire à l'ensemble des Écritures concernant la personne de Dieu, mais en fait, nous sommes en communion avec la nature divine et rendus conformes à cette nature divine par le Saint-Esprit qui habite et œuvre en nous. Tel Père, tel Fils, nous sommes appelés et conduits à refléter les qualités morales de Dieu. Il doit y avoir un air de famille. Et puis, au cœur de notre réflexion de cette matinée, de cette fin de matinée, cette remarque qui découle de la précédente, « Votre Père n'est pas n'importe qui et ne se conduit pas n'importe comment. » D'où l'importance cruciale, déterminante de la connaissance de Dieu. Et bien entendu, non d'une connaissance qui serait simplement d'ordre cérébral, intellectuel. Bien entendu que le cérébral, l'intellectuel ne sont pas à rejeter, à mettre de côté. Il existe des tendances de spiritualité, parfois même au sein du monde évangélique, qui, hélas, ont mis les facultés intellectuelles, le cérébral sous le boisseau, pour verser dans l'émotionnel, dans tout ce qui est le règne de l'affectivité. Et nous savons que cela n'est pas juste. Mais néanmoins, je le dis au passage sans m'y arrêter, quand nous évoquons la connaissance de Dieu, nous allons dans le sens de la signification d'un mot très fort dans les Écritures, dans le vocabulaire de Dieu en quelque sorte, mis à portée de l'homme pour qu'il puisse le comprendre, puisqu'il existe un verbe, connaître, avec ses dérivés, substantifs, etc., qui figure non loin de 1000 fois, par exemple dans l'Ancien Testament, et qui est un verbe qui va précisément dans cette signification, au-delà de la connaissance purement intellectuelle, théorique, abstraite, cérébrale. C'est un terme qui a d'ailleurs été rendu, je trouve, de manière presque provocante par un de ces révolutionnaires, parfois d'ailleurs avec mauvais goût, de la langue française, qui est aussi un traducteur et commentateur de la Bible. Je veux parler du célèbre Chouraki, qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. D'une part parce que c'est un universaliste dans sa pensée religieuse, mais qui, par ailleurs, a une maîtrise des langues anciennes assez remarquable. Alors il a voulu jouer avec la langue française et il a donc inventé une quantité de mots tout neufs qui sont à lui tout seul, qu'on appelle donc des néologismes. Dans certains cas, ce sont des réussites extraordinaires, dans d'autres, des échecs lamentables. Pas pour lui, bien sûr, mais pour ceux qui le lisent. Donc, il faut faire attention. Et lui, lorsqu'il est en face de ce petit mot hébreu, il va le rendre par l'expression « pénétrer ». Tout simplement parce qu'il fait allusion, et ce n'est pas faux, mais ça peut être très mal compris, il fait allusion à l'usage de ce terme « connaître » en hébreu, qui à 10 reprises dans l'Ancien Testament est utilisé pour évoquer les relations sexuelles. Hélas, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, non seulement les relations sexuelles légitimes à l'intérieur d'un couple homme-femme marié, mais aussi dans le cadre de l'homosexualité, dans Genèse 19, par exemple. Hein? Fait sortir cet homme afin que nous le connaissions. Adam connut Ève, sa femme. C'est le même terme. Mais c'est un terme qui est d'une grande richesse si justement on comprend aussi que dans la pensée de Dieu, l'usage de la sexualité dans le respect de la sainteté de Dieu signifie qu'elle s'inscrit uniquement dans le cadre du mariage entre un homme et une femme et que c'est une forme d'amour qui a cette dimension physique toute particulière, amour avec le corps, qui est le prolongement, le couronnement de l'amour avec le cœur. Dans les Écritures, la sainteté de Dieu part toujours de l'amour avec le cœur pour aller à l'amour avec le corps. Et la puissance des ténèbres qui caricature en permanence l'harmonie de Dieu, le cosmos de Dieu, comme dit la Bible, va en sens inverse. Et elle susurre à l'oreille des humains qu'il vaut mieux commencer par le corps pour aller vers le cœur. Et nous avons le résultat destructeur chaque jour et plus que jamais dans l'histoire des hommes sous nos yeux, n'est-ce pas ? Connaissance de Dieu. Au point même, c'est si beau, n'est-ce pas, que le terme « connaître » est parfois remplacé dans les Écritures, et c'est juste, par le terme « aimer ». Quand il est dit que Dieu a connu Jérémie ou a connu Abraham, cela veut dire qu'il est entré dans une relation particulière avec Abraham, avec Jérémie, avec d'autres, qui était l'effet de son amour, n'est-ce pas ? Il a bien voulu partager avec sa créature, avec ses enfants, avec ses serviteurs, certains secrets de son intimité. Il est dit que les secrets de l'Éternel sont précisément pour ses intimes, psaume 25, n'est-ce pas ? Voyez ? C'est ça, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est cette entrée dans une relation avec lui, une relation qui implique la totalité de notre personne. Quand j'entre en relation avec Dieu, je me donne tout entier à lui. Je ne donne pas une partie de ma vie à l'exception d'une autre. Je ne garde pas une dimension pour moi. Je lui donne tout ce que je suis et lui, son bonheur, c'est de se donner aussi. Bien entendu, il ne peut pas se donner dans sa totalité parce que nous ne pourrions pas le supporter. Donc il mesure avec une sagesse qui est la sienne seule ce que nous pouvons supporter en fonction de notre maturité, n'est-ce pas ? Donc ce qui va évoluer normalement au fil de notre croissance avec Christ, et il est évident que si nous avons marché avec 10, 20, 30, pendant 10, 20, 30, 40 ans dans son intimité, dans sa présence, la révélation du supportable sera plus grande, n'est-ce pas ? parce qu'on vit plus près de lui, voyez. Donc je tenais à le préciser sans pouvoir m'y attarder, parce que c'est trop important hein, de réaliser l'importance de cette connaissance de Dieu qui s'appuie sur la doctrine des Écritures, mais qui ne reste pas emprisonné dans la doctrine, qui entre dans la pratique. Hein. C'est Richard Wurmbrand qui disait, c'est une chose de savoir théoriquement ce qu'est la grâce de Dieu et de réciter « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse », l'expérience de Paul avec son écharde, mais disait, mais c'est pas suffisant. Mieux vaut connaître celui dont la grâce suffit pour pouvoir expérimenter sa grâce. C'est ça la connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Et notre problème, surtout dans notre Europe occidentale, très marquée par la Renaissance, par tout ce qui nous vient des philosophies grecques et autres qui ont terriblement marqué nos esprits, nous sommes très marqués par l'abstrait, par le raisonnement. Nous manquons terriblement de sens pratique, n'est-ce pas? Nous vivons un déséquilibre terrible qui est en train de nous perdre dans bien des domaines, n'est-ce pas? Donc, notre Père n'est pas n'importe qui, ne se conduit pas n'importe comment, importance de le connaître. Et puis alors, à partir de là, sur la base d'Ésaïe 40, 25, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. Nous avons essayé de comprendre par des définitions, mais en les incarnant, ces définitions, la signification donc de « Dieu est saint, Dieu est kadosh, celui qui n'a pas de pareil ». Je ne vais pas redonner l'étude de ce matin. Et finalement, nous avons clos avec le psaume 99 qui nous montre précisément ces facettes de la sainteté de Dieu, sa transcendance absolue, sa justice absolue, sa grâce et son jugement, en prenant l'exemple de Moïse. Nous en venons donc, je me suis posé un instant la question devant Dieu, dans mon temps entre les deux réunions, mais Seigneur, est-ce que je dois continuer sur cette dimension? Est-ce que ça ne va pas apparaître comme vaine redite? Et Dieu m'a convaincu qu'il fallait continuer dans ce sens-là, d'autant plus que nous allons pouvoir compléter, autant que faire se peut, le panorama à cet égard. Ésaïe 6, 1 à 7, dominé par ce verset 3, mis en musique dans toutes les langues du monde où se trouvent des disciples de Jésus-Christ. C'est un verset incontournable. Ésaïe 6, verset 3, ces séraphins qui criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Alors je me propose et je vous propose de faire une analyse du texte pour à la fois enfoncer le clou et puis pour apporter d'autres éléments parce que c'est fondamental pour les répercussions que cela va avoir ensuite dans notre vie, puisque après le pourquoi de cet impératif, moi je pense que ce sera pour l'année prochaine, nous avons le comment de cet impératif dans la première épître de Pierre. Mais vous ne pouvez pas aborder le comment sans, en tout cas, avoir de bonnes bases concernant le pourquoi. Verset 1er. L'année de la mort du roi Ozias. L'année de la mort du roi Ozias. Si nous croyons, et je le répète, que les Saintes Écritures ont été verbalement inspirées par Dieu, nous considérons donc que ce premier fragment de verset qui ouvre le chapitre 6 n'est pas secondaire. L'année de la mort du roi Ozias. Nous n'allons pas, là aussi, faire du saute-mouton en disant « Oh, ça n'a aucune importance ». Bien au contraire. Il faut savoir que nous sommes aux alentours de l'an 740 avant Jésus-Christ. Les commentateurs se promènent entre 734, 735 et 740 à peu près. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Et vers 740, le roi Ozias, qui s'appelle aussi Azaria, suivant les textes, puisque vous savez que l'histoire des rois de Juda est répétée, on la trouve à deux reprises, entre les livres des rois et les chroniques, avec chaque fois des aspects complémentaires, et c'est très très beau parce que l'objectif de ces livres est différent et complémentaire. C'est donc l'année où le roi Ozias ou Azaria meurt lépreux. Et c'est certainement la raison, ou une des raisons, soyons prudents, une des raisons pour lesquelles il est fait mention de la mort du roi Ozias. Il meurt lépreux, après un très long règne, après le règne de Manassé qui a duré 55 ans, et ça a été une catastrophe. Lui règne 52 ans, et Ozias avait bien commencé. Il est comme pratiquement la moitié des bons rois de Juda qui ont bien commencé et qui ont mal terminé. Lui, au début, ça marche très bien, il devient de plus en plus puissant. C'est un ingénieur, c'est un roi ingénieur. C'est-à-dire qu'il va faire, il va avoir un esprit très développé pour inventer, notamment dans le domaine des sièges, des guerres. Il fait penser à ce qui s'est passé ensuite dans l'Empire romain, n'est-ce pas, avec les catapultes, la tortue et les béliers et tous les autres usages d'instruments de guerre. Il est comme ça. Dans une quantité de domaines, il invente. Et Dieu ne lui fait aucun reproche dans ce domaine. Dieu l'a équipé pour être un ingénieur, un inventeur. Mais le problème, c'est que le succès lui monte à la tête. Et il arrive donc un moment où, comme d'autres rois de Juda, il prend une indépendance orgueilleuse vis-à-vis de Dieu, il prend ses distances, et il reste ingénieur. Mais là où Dieu l'a béni dans son ingéniosité, dans ses inventions, parce qu'il le craignait, il va maintenant devoir le châtier très sévèrement dans sa sainteté, parce qu'il utilise son talent d'ingénieur dans un domaine où il n'a pas le droit de l'utiliser. Vous le lirez dans les livres des chroniques, c'est-à-dire, je suis en train de chercher exactement l'endroit où il est question de lui, dans 2 Chroniques 26, 2 Chroniques 26, et vous verrez donc que jusqu'au verset 15, il nous est dit de lui que sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu ou extraordinairement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Jusque-là, Dieu l'aida. Et n'ayons crainte de dire que Dieu l'aida, même si c'est le saint. Puisque 15 fois dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu aide l'homme. Quand il est dit que la femme a été mise aux côtés de l'homme pour l'aider, les femmes très féministes disent « Comment aider mon mari ?» Ce à quoi je leur réponds, mais soyez rassurés, le même terme est utilisé, de Genèse 2:18, donc est utilisé 15 fois dans l'Ancien Testament pour évoquer Dieu qui aide l'homme. Donc soyez fiers,
Si Dieu aide l'homme, vous pouvez bien aider votre mari.
N'est-ce pas?
Dieu l'aida.
Et puis à partir du verset 16, je l'ai mis en gros caractère rouge, Dieu le frappa. Dieu le frappa, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre, il pécha contre l'Éternel son Dieu. Pourquoi? Ben parce qu'il veut innover. Il veut innover dans le domaine de sa spiritualité, dans le domaine du culte. Il pense que les anciens chemins de Dieu sont dépassés et que peut-être il faut s'adapter avec son temps. C'est volontairement que j'utilise cette formule. Donc, plus question de vivre le culte comme on a vécu autrefois. C'est morose, c'est froid, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il faut tout sentir, il faut valser, il faut faire des gestes, il faut se remuer, il faut se dandiner, il faut s'embrasser, et enfin bref. Hein, c'est notre problème aujourd'hui, parce que nous avons perdu le sens de la sainteté de Dieu. Bien sûr que Dieu ne veut pas que nous soyons austères, etc. On aura l'occasion de le dire, si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine, Dieu voulant. Donc, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on ne peut pas, avec Dieu, penser que, avec le temps, on peut changer les formules comme on veut. Parce que la doctrine de Dieu est une doctrine aussi immuable que l'est sa sainteté. Alors, il se dit, ben, moi, je vais être sacrificateur. Je serai roi et sacrificateur. Après tout, qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'aller balancer mon truc d'encens? Et donc de faire monter des prières à l'aide de l'encens dans le lieu saint. Eh oui, mais Dieu est saint. Dieu est saint. Et alors que toute une équipe de sacrificateurs courageux vient le prendre la main dans le sac, n'est-ce pas, et lui dit, il supplie d'arrêter, de quitter cet endroit où il n'a rien à faire. Comme le président de la République n'a rien à faire à l'Assemblée nationale, hein, n'est-ce pas? Il résiste. Et voilà que subitement, il est frappé de lèpre. Et on va alors le prendre, le faire sortir le plus rapidement possible de ce lieu qui exprime la sainteté de Dieu, et il vivra à l'écart, lépreux, jusqu'à la fin de ses jours, et il sera enterré, donc, en tant que lépreux. Alors, je ne sais pas si vous voyez la saveur, le piment que ce tiers de verset donne à la suite du texte. Vous comprenez pourquoi Ésaïe 6 commence de cette manière? Parce qu'il y a eu crime de lèse-majesté. Parce qu'on a essayé d'attenter à la sainteté de Dieu. Et qu'on n'attente pas à la sainteté de Dieu quand on prétend vouloir le servir sans avoir à en supporter les conséquences. Et en fait, toute la suite du texte est comme une mise au point de la part de Dieu. Il fallait qu'il y ait une mise au point. Et c'est Ésaïe qui a été chargé par l'Éternel et par une expérience inoubliable de faire cette mise au point, de remettre les pendules à l'heure. Et c'est la même chose dans l'église de Jésus-Christ, c'est la même chose dans nos églises locales, c'est la même chose dans nos pays, dans nos nations, dans nos unions d'église, dans nos groupements, dans notre chrétienté. Il y a des moments où Dieu remet les pendules à l'heure, mes amis. Pensez à ce qui se passe à l'époque de la royauté de David. David qui, à un moment donné, parce que c'est un passionné de Dieu, parce qu'il aime l'Éternel, il veut honorer l'Éternel, il voudra, vous le savez, édifier le temple, n'est-ce pas? Et il dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser l'Arche de l'Alliance à l'écart, ça fait 20 ans qu'elle est là, chez quelqu'un qui est d'ailleurs extraordinairement béni, Obed-Edom, n'est-ce pas? Non, il faut ramener l'Arche à Jérusalem. C'est quelque chose de très noble, quelle attitude qui ne peut que réjouir le cœur de Dieu. C'est l'amour pour Dieu qui conduit le roi David à procéder de cette manière. Sauf que, il ne va pas voir dans la doctrine, dirions-nous, dans l'Ancienne Alliance, dans les premiers livres de la Bible, dans la Torah, il ne va pas voir comment l'arche devait être transportée. Alors, puisqu'elle était arrivée
en terre d'Israël. Vous savez qu'elle était partie chez les Philistins, et finalement, il y avait eu tellement de plaies qu'ils se sont dit, il faut qu'on offre des sacrifices, qu'on fasse des petites poupées, des souris et tout ce que vous voulez, là, pour s'en sortir. Et puis, ils ont renvoyé l'arche sur un chariot tiré par des bœufs. Et ça s'est bien passé, puisque le chariot a traversé la frontière, il est arrivé dans un village, et ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors on est resté sur cette idée. On voit l'arche, on voit un chariot, n'est-ce pas? Eh oui, mais est-ce que c'est conforme à la doctrine de Dieu? D'autant plus que c'est l'arche de l'Alliance qu'on transporte. Et je ne sais pas si c'est ce matin ou hier que nous avons souligné qu'il était question du propitiatoire, que Dieu, dans sa gloire, en quelque sorte, était entre les chérubins. C'est son marchepied, c'est son trône au milieu des hommes, lui que le cosmos tout entier ne peut contenir puisqu'il en est l'auteur, n'est-ce pas? Donc, en quelque sorte, il transporte sur ce char le trône de Dieu pour que l'homme puisse comprendre, pour que le peuple d'Israël puisse comprendre comment Dieu, dans son amour, accepte d'être au milieu de son peuple. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un bœuf peut-être qui a trébuché, je ne sais quoi, mais toujours est-il que le char s'est mis à pencher et Uzza, en essayant de le tenir pour que l'arche ne tombe pas au sol, vous rendez compte, le trône qui va tomber est foudroyé par le Dieu trois fois saint. Même type de situation que le roi Ozias. Dieu remet les pendules. Et nos amis, si nous sommes véritablement disciples de Jésus-Christ, nous devons nous attendre à ce que dans nos vies aussi, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu remette les pendules à l'heure si nous jouons avec la majesté divine. Le Dieu plein de grâce, nous l'avons vu, est aussi, même aujourd'hui, le Dieu qui juge. C'est ce qu'il fit jadis dans l'église de Jésus-Christ à Corinthe. C'est pour cela qu'un certain nombre sont malades, qu'un certain nombre sont morts. 1 Corinthiens 11, n'est-ce pas? Et ça n'a pas changé depuis. Dieu reste le même. Ce n'est pas à nous de brandir le doigt en disant « si un tel est malade, ça veut dire qu'il a violé la sainteté de Dieu ». Certains le font, c'est une terrible responsabilité qu'ils prennent. Mais néanmoins, c'est une évidence que Dieu remet les pendules à l'heure. Pas d'innovation dans tout ce qui concerne la doctrine de Dieu. Nous devons apprendre à continuer à marcher dans les anciens chemins. Le grand reproche que fera Ésaïe et d'autres prophètes avec lui, c'est précisément d'avoir voulu inventer des nouveaux chemins de spiritualité dans la vie du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, les nouveaux chemins font floraison, mais Dieu remet les pendules à l'heure. Il se trouve que cet événement, l'année de la mort du roi Ozias, correspond grosso modo au tout début du ministère du prophète Ésaïe. C'est en quelque sorte le jeune prophète Ésaïe. Tout frais, tout neuf, que Dieu, bien entendu, a préparé comme il a préparé les autres prophètes, il en est à ses débuts. Et là, cette année-là, de la mort du roi Ozias, qui a dû être un événement absolument retentissant, parce que ça doit être terrible d'avoir comme ça un souverain en place qui un jour a été frappé de plein fouet par la lèpre, alors qu'il avait été un roi puissant, ingénieur et ingénieux à la fois, et qui meurt reclus, à l'écart, en lépreux, avec tout ce que ça signifiait, d'autant plus que la lèpre de cette époque n'était pas comparable à nos lèpres que nous évoquons aujourd'hui. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Je vis le Seigneur. Quelle surprise! Lorsque tout d'abord, le Seigneur Jésus lui-même, quand il était au milieu des hommes, en terre d'Israël, évoquant l'incrédulité, en particulier des chefs du peuple, malgré tout ce que Jésus avait fait pour manifester l'identité de Dieu au milieu des hommes, comment Jésus va évoquer Ésaïe 6, citer indirectement ce passage, les Écritures soulignant, c'est dans Jean au chapitre 12 et au verset 41, que le Seigneur en question dans Ésaïe 6, c'est Dieu le Fils. C'est Dieu le Fils. C'est le Seigneur que nous appelons nous le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? C'est lui qui est là, au cœur de ce texte. Comme pour nous rappeler que jamais au jamais, nous n'avons le droit de faire de différence au niveau de l'essence, au niveau de la nature, au niveau des qualités, des attributs. Nous n'avons le droit de faire de différence entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Parce qu'il est ici, d'après Jean 12, 41, question du Fils. Ésaïe a vu la gloire du Fils de Dieu. Et il est dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le temple, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas qu'un seul mot dans les langues bibliques pour désigner le temple, mais plusieurs. Et ici, le mot qui est utilisé évoque le lieu saint, entre le vestibule et l'entrée du lieu très saint, donc vraiment le lieu saint, là où précisément les sacrificateurs vont, là où jamais Osias n'aurait dû se permettre d'aller. Mais ce qui est quand même intéressant, dans cette manifestation sensible, visible, de la gloire du Fils, c'est que ce ne sont que les pans de la robe du Seigneur qui remplissent cet endroit. Qu'est-ce que ça veut dire alors concernant l'immensité de sa majesté si nous n'avons que les pans de sa robe qui remplissent ce lieu saint? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, de dont ils se couvraient la face, de dont ils se couvraient les pieds, de dont ils se servaient pour voler. Alors on a beaucoup glosé sur les séraphins, parce que la Bible est très sobre lorsqu'elle évoque cette hiérarchie des anges et de ceux qui sont dans le camp de Dieu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de précautions. Dieu ne veut pas qu'on commence à spéculer là-dessus, à inventer. Ça, c'est la différence entre les Écritures et puis ce qu'on appelle tous les textes apocryphes, ces textes secrets, cachés, particuliers, où on a embelli, brodé, on est passé à la légende, n'est-ce pas, aux choses qui vous remuent un petit peu partout, mais qui ne correspondent pas aux Écritures. Alors, les séraphins, il semblerait que le verbe « saraph » signifie, donc cela dérive de ce verbe saraf qui signifie brûler, ce seraient les brûlants. les ardents, les brûlants. Et il serait donc une catégorie d'anges, bien entendu en rapport avec la sainteté divine et la purification du péché. Ce serait là leur ministère, mais nous devons rester prudents, il se peut qu'il y ait d'autres choses, la parole de Dieu est très sobre. Mais en tout cas, ils sont là. Et vous voyez avec quelle précaution ces créatures célestes sont là à cause de la gloire, de la sainteté du Fils de Dieu. Et donc ils crient, et ils crient l'un à l'autre, ils s'entretiennent en quelque sorte. On peut imaginer ce que ça signifie, n'est-ce pas? Tout en se protégeant, ils s'adressent l'un à l'autre, c'est un véritable concert de louanges en l'honneur de ce Seigneur majestueux, et ils se disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » L'Éternel des armées. Rien n'est au hasard dans ce texte. Et c'est ça ce qui doit nous conduire les uns et les autres à prendre le temps de nous arrêter quand nous sommes en face d'un texte pour voir, Bible en main, en allant ailleurs, ce que les choses veulent dire. Trop souvent, nous vivons à une époque où il faut faire toutes choses tellement vite, n'est-ce pas, que même nos disciples de Jésus-Christ, nous lisons les Écritures trop vite. Et à cause de ça, nous ne voyons pas toute la cohérence du plan de Dieu lorsqu'il développe un texte, lorsqu'il développe un paysage, lorsqu'il développe une photo, n'est-ce pas. Il y a une cohérence de Dieu, il y a une harmonie dans la pensée de Dieu. Elle est là, elle est présente, puisque Dieu, le Fils de Dieu même n'est pas appelé n'importe comment, il est présenté comme l'Éternel des armées. C'est quand même extraordinaire. L'Éternel des armées. 56 fois, sous la plume du prophète Ésaïe, dans les 39 premiers chapitres. 56 fois. Et ensuite, 6 fois seulement, dans les chapitres 40 à 66, alors que ces chapitres 40 à 66, nous l'avons déjà dit, sont parmi les plus beaux et les plus riches chapitres pour nous présenter la personne de Dieu. C'est intéressant. Si vous cherchez l'expression « l'Éternel des armées » dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la Bible, vous ne la trouvez pas. Par contre, si vous allez dans Agé, Zacharie, Malachie, qui appartiennent à la même période du retour de l'exil, de la reconstruction d'abord du temple, puis de la ville de Jérusalem, vous allez les trouver 90 fois. Dans 20 chapitres au total sur les 3 livres, n'est-ce pas? Ce qui a beaucoup de signification, nous n'allons pas nous arrêter sur certains aspects, mais tout de même, faire une remarque, donc 62 fois dans Ésaïe, et ce qui va nous aider, mais dans le cadre de l'enseignement, il n'est pas nécessaire de passer forcément par ce chemin-là pour chacun d'entre nous, mais nous avons déjà évoqué ce qu'on appelle la version des Septante, hein, cette version grecque de l'Ancien Testament, qui est intéressante, d'ailleurs dont les rédacteurs inspirés du Nouveau Testament se sont beaucoup servis. Ils ont emprunté beaucoup à la version grecque des Septante. Et cette version des Septante traduit l'expression, le mot hébreu, hein, l'expression « éternel des armées » en hébreu, est rendue en grec par un mot particulier, « pantokrator », kratos, kratos, hein, la plutocratie, l'aristocratie, kratos, c'est la puissance. Hein, le pantokrator, que l'on retrouve 10 fois dans le Nouveau Testament. C'est toujours intéressant de voir ensuite comment le même terme est utilisé dans le Nouveau Testament. Voyez, il figure 10 fois dans le Nouveau Testament. Et sur ces 10 fois, 9 fois, il est présent dans le livre de l'Apocalypse. C'est pas rien. Parce que là encore, l'Apocalypse est aussi un livre de la révélation de la gloire de Dieu, de la sainteté de Dieu, n'est-ce pas ? 9 fois sur 10. Et ce terme grec, Pantokrator, est utilisé aussi bien pour évoquer Dieu le Père que Dieu le Fils dans l'Apocalypse. Ça va ensemble. Et les traducteurs de cette expression Pantokrator dans le livre de l'Apocalypse l'ont rendu commun ce terme ? Par l'expression le Tout-Puissant, ou encore par une locution, un ensemble de mots, une petite phrase, le souverain aux pouvoirs illimités, ou encore le dominateur universel. C'est-à-dire qu'il est question de cette souveraineté absolue de Dieu qui nous est décrite de manière tellement remarquable dans le livre de Daniel en particulier. Donc nous sommes en face, dans Ésaïe 6, de ce souverain aux pouvoirs illimités, de ce dominateur universel, du Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Alors les armées, ben, les Écritures en parlent des armées. Il est question même dans Ésaïe 40, c'est intéressant, qui a été évoqué tout à l'heure. Nous aurions pu étudier Ésaïe 40, parce qu'il y a alors sur la sainteté de Dieu et la gloire de Dieu toute une succession de petits paragraphes qui montrent la supériorité absolue de Dieu sur tous les aspects de sa création. Et puis quand il arrive au bout, il dit « Bon, maintenant j'ai quand même un problème avec mon peuple ». C'est que malgré le fait que je sois supérieur aux anges, aux étoiles, aux potentats qui gouvernent, etc., mon peuple me méprise, il trouve que je ne m'occupe pas assez de lui, que je suis un dieu dépassé, que je suis un dieu vieillot, etc. Et alors c'est là que dans la fin d'Ésaïe 40, je brûle quand même d'envie juste de vous lire au moins ça. « Pourquoi dis-tu, Jacob, verset 27, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ? Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel échangent leur force. » Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Le Dieu saint qui répond à un peuple qui le méprise. Alors les armées de l'Éternel, ce sont les anges, ce sont les étoiles, ce sont les forces de la nature. Alors il y a des textes extraordinaires. Qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel ? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel ? C'est pas beau ça ? Psaume 88, versets 7 à 9. Ou encore, ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Jérémie 31, verset 35. Vision de Dieu. Une fois de plus, quelle est notre vision de Dieu ? Notre vision de Dieu est-elle une vision doctrinalement juste déjà ? Et ces séraphins criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Saint, Saint, Saint. Ce n'étaient pas des séraphins bégayeurs. Et pourtant, ils se répétaient. Ils ne s'encombraient pas de la nécessité de l'élégance dans le langage, même dans celui de l'adoration. Simplement, nous sommes dans un contexte hébreu, et la communication se fait vis-à-vis du peuple hébreu. Et là intervient la stylistique, la manière de communiquer sur le plan linguistique, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'il est question ici d'une triple répétition. Tout simplement parce que les Hébreux avaient coutume d'exprimer les superlatifs et la plénitude au moyen de la répétition. Nous, nous avons généralement trois mots. Bon, mieux, le meilleur. Le meilleur est le superlatif. Meilleur ou mieux est un comparatif de supériorité. Et il y a une gradation de l'ordinaire à l'extraordinaire dans le sens positif ou négatif. Les Hébreux ne connaissent pas ça. Leur approche orientale en tant qu'Hébreux est dans la répétition. De la même manière aussi, d'ailleurs, que même nous, en France, on peut aussi parfois exprimer un superlatif par la répétition. Parce que parfois, c'est la seule manière de dire combien nous sommes abasourdis, étonnés, stupéfaits, etc. On se répète. Mais là-bas, c'est la tournure habituelle. Alors, vous avez dans l'Ancien Testament la répétition, c'est-à-dire, nous dirons, nous, pour mieux nous comprendre, la double répétition. On dit et on redit. Alors il y a dans l'Ancien Testament des dizaines de passages qui, dans le texte hébreu, contiennent la répétition d'un mot. Mais vous imaginez bien que si, servilement, on traduisait systématiquement en répétant les mots chaque fois qu'ils sont présents deux fois, dans certains cas, les textes seraient extrêmement lourds. Donc les traducteurs sont placés devant la nécessité de choisir là où il est très important d'indiquer la force d'une pensée de Dieu par la répétition. Alors ils mettent la répétition, mais on ne le met pas systématiquement partout. Vous allez avoir cela dans le grec du Nouveau Testament, mais traduit aussi en français. D'ailleurs, c'est plutôt de l'hébreu en réalité qui a été repris dans le Nouveau Testament. En vérité. Alors parfois, il y a une seule fois. Amen, c'est de l'hébreu, c'est vrai, c'est solide, Dieu est fidèle dans sa parole, c'est fiable, c'est la vérité. Mais parfois c'est amen, amen, je vous le dis en vérité, en vérité. Alors quand même Jésus répète, c'est une vérité qui est d'importance absolument incontournable, il faut faire d'autant plus attention qu'il répète. Alors dans l'Ancien Testament, dans Genèse 14, 10, vous verrez, puis, P-U-I-T-S, puis. Dans 2 Rois 25, verset 15, d'or, D-O-R, D-O-R. Alors vous comprenez bien qu'en français, ça ferait un peu, parfois un peu bizarre, n'est-ce pas? Ça, ça doit passer dans l'enseignement, absolument. Montrer ces répétitions. D'or, ou encore, oui, d'or, ça sera traduit en français par or fin. Ça veut dire que c'est le nec plus ultra de l'or. C'est l'or le plus fin qui soit. Et c'est souvent comme ça. Dans cette répétition, mais ce qu'on appelle l'emphase, n'est-ce pas? Quand on veut mettre l'emphase, mettre en évidence quelque chose qui est poussé très loin, donc on le répète. Par exemple, dans Ésaïe 57, 19, paix, paix. Alors ça va être traduit en français par l'expression paix parfaite. C'est pas la paix toute seule, c'est vraiment la paix à son sommet, voyez. Alors maintenant, il y a la triple répétition. Le mot répété une première fois, puis une deuxième fois, n'est-ce pas? Donc trois fois au total. Alors dans Ézéchiel, on va prendre un exemple, Ézéchiel 21, 32, Ézéchiel 21, verset 32, dans ce livre extrêmement solennel face au péché de Juda. Et là, Dieu s'adresse par l'entremise d'Ézéchiel au roi Sédécias, le dernier roi de Juda qui finira de manière terrible après qu'on aura crever les yeux. Enfin bref, on aura fait des choses abominables à Babylone hein, sur sa propre famille. Et finalement, il sera à son tour exécuté. Et au sujet de Sédécias, Dieu dit, « Et toi, verset 30, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer, ce qui est abaissé sera élevé, ce qui est élevé sera abaissé, j'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. » Alors voyez, là on a laissé. Ça c'est un superlatif, très négatif. Mais on enfonce le clou. Il faut que ça soit comme un électrochoc sur les auditeurs. Une ruine, une ruine, une ruine. Si vous allez dans Jérémie au chapitre 7 et au verset 3, Jérémie chapitre 7, verset 3, là c'est donc le prophète Jérémie qui, sur l'ordre de Dieu, se place à la porte de la maison de l'Éternel. C'est un endroit absolument stratégique, là où passent beaucoup de gens. Et là, publie cette parole, verset 2, et dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda, qui entrez par ses portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. » Voyez l'expression ici. C'est pas pour rien qu'elle est là. Parce que Jérémie est en face d'un peuple qui a oublié de se souvenir de l'identité de Dieu, de la sainteté de Dieu, qui méprise Dieu de plus en plus. C'est devenu écœurant ce qui se passe en Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Voyez, répétition. Pourquoi ? Parce que le temple de l'Éternel était devenu un talisman. Et Israël se gargarisait d'avoir en quelque sorte enfermé le Dieu trois fois saint à double tour dans son sanctuaire. Et il faut dire qu'il y a eu énormément de problèmes en terre d'Israël qui ont tourné autour du temple. Ézéchiel 24-21 dit ceci, c'est Dieu qui parle, « Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. » Et pour que le peuple de Juda comprenne bien que Dieu est sérieux, Dieu va faire quelque chose de terrible. Mais c'est un électrochoc décisif très important. Il va dire à Ézéchiel, tu sais, ta femme va mourir aujourd'hui. En disant, ta femme, précisément, celle qui fait les délices de tes yeux, l'objet de ton amour, celle que tu préfères à tout autre, qui occupe tant de place dans ton cœur, elle va mourir. Elle va mourir parce que j'ai une leçon à donner au peuple dont tu es le prophète. Ou à moi-même, en tant que prophète de l'Éternel devant le peuple. Et effectivement, l'épouse d'Ézéchiel va mourir. Et c'est ce qui va donner une pertinence et une percutance particulière au message du prophète concernant le temple de Jérusalem. Vous voyez, les prophètes, dans l'Ancienne Alliance, ils étaient appelés dans leur fidélité à l'Éternel, à passer par des chemins extrêmement difficiles, parce que non seulement ils devaient parler, mais ils devaient, dans leur histoire, être des signes électrochocs obligeant le peuple à se poser des questions. Et on ne va pas analyser la suite du texte, mais Jérémie dit, écoutez, vous savez ce qui va vous arriver ? Eh bien, ce temple-là, qui est tellement prestigieux pour vous, il va lui arriver exactement la même chose qui s'est passée lorsque l'Arche de l'Alliance était à Silo, du temps du sacrificateur Élie, E-L-I. Vous savez, vous connaissez ce texte du début de l'histoire de Samuel. Si vous allez vous promener à Silo, vous verrez quoi ? Plus de traces du sanctuaire de cette époque. Vous avez les boucs, les chèvres qui se nourrissent, qui paissent. Bien, c'est exactement ce qui va se passer à Jérusalem. Mais voyez avec ce superlatif, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Et voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que dans l'ensemble des Écritures, c'est la seule fois dans la Bible où une qualité de Dieu, ou une qualité même qui pourrait être une qualité humaine, si c'était un autre terme, soit répétée de cette manière trois fois. C'est l'unique exemple. Ce qui, une fois de plus, met en évidence la place centrale de la sainteté de Dieu dans les Écritures. Dieu a tenu à ce que les séraphins l'adorent en répétant de cette manière, pour bien montrer que la sainteté de Dieu, ou le saint quand il s'agit de Dieu, c'est absolument tout, c'est là l'essentiel. Dieu est entièrement, absolument, parfaitement saint, sa transcendance est absolue, sa pureté morale est absolue, sa séparation d'avec le péché est absolue, sa gloire, sa majesté et sa grandeur sont absolues. Voilà ce que les séraphins proclament dans le sanctuaire. Un écrivain souligne ceci: dans tous les livres que j'ai lus sur la sainteté de Dieu, j'ai constaté que les auteurs ont dû chercher les termes adéquats pour exprimer cette réalité. Les mots entièrement, infiniment, absolu, insondable, suprême, ardent, exalté, solidaire, solitaire, unique, sans pareil, ont valeur de superlatif. Même en épuisant toutes les ressources de notre langage, nous ne pouvons décrire Dieu. Il est réellement insondable. Voilà une des proclamations d'Ésaïe, chapitre 6. Quand on ne sait plus comment dire ce qu'est Dieu, chez les Hébreux, on le répète. On répète le mot fondamental qui est expliqué ailleurs tout au long des Écritures. Et alors, vous arrivez à ce verset 5. Qui me rappelle 1 Samuel 6, verset 20, précisément dans le cadre de tout ce qui s'est passé à Silo, le problème avec les Philistins, hein, n'est-ce pas ? 1 Samuel 6, 20 dit, il pose la question: qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Qui peut subsister? Et là, nous avons affaire à un jeune prophète, à un néophyte dans le domaine de la prophétie, qui est décomposé. Et il est d'autant plus décomposé que, avant le chapitre 6, bien entendu, cela va de soi, il y a le chapitre 5. Et que dans le chapitre 5, le jeune prophète, Ésaïe, s'est déchaîné. Il s'est déchaîné de la part de Dieu pour exprimer la colère de Dieu à l'endroit d'Israël. Et dans ce déchaînement de colère, ce que j'ai intitulé en tête à partir du verset 8 du chapitre 5, les raisins de la colère, il utilise un mot qui va revenir 6 fois. C'est le mot malheur. Et nous pourrions très bien envisager une étude qui prendrez verset après verset les versets 8 et suivants du chapitre 5 pour voir comment ils s'appliquent à notre société d'aujourd'hui. Alors j'ai simplement résumé, malheur aux accapareurs et spéculateurs, hein, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Mes amis, s'il y a un verset qui est d'actualité, c'est bien celui-ci, hein. Quand on voit tous ces trusts, tous ces arrangements, cette globalisation, cette mondialisation, où finalement tout finit par se trouver entre les mains de d'abord trois, deux, puis une personne, une petite équipe, on est en plein dans le sujet. Et vous voyez que le problème n'est pas nouveau, il existait déjà à l'échelle d'Israël. Et vous voyez ce que Dieu en pense. Malheur aux accapareurs, aux spéculateurs, un peu plus loin, malheur aux hédonistes, c'est-à-dire ceux qui sont centrés simplement sur le domaine des loisirs, là encore mes amis, l'hédonisme aujourd'hui, hein. les loisirs, du pain et des jeux, hein. Il n'y a pas que dans l'Empire romain, panem et circenses, non, du pain et des jeux, nous en voulons du matin au soir, du soir au matin, moins on travaille, mieux on se porte. C'est dans les Écritures. Hédoniste et épicurien, hein. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Un peu plus loin, les incrédules, libertins et railleurs. Un peu plus loin, les pervertis, orgueilleux, arrogants. Un peu plus loin encore, les juges iniques, corrompus. Mais mes amis, est-ce que ce n'est pas notre société? Malheur, 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 malheur. 6 fois. 6 fois. 2 fois 3. Chiffre de l'homme. Et puis là, au chapitre 6, malheur à moi. Malheur à moi. Le 7e de ces malheurs. Malheur à moi. Le 7e malheur est pour lui. Ésaïe est absolument bouleversé devant cette manifestation sensible dont il ne voit que l'extérieur. Les pans de la robe remplissent le lieu saint, les séraphins, mais simplement déjà le peu qu'il voit subit à le décomposer sur place. Et il est tellement bouleversé que tout son ministère en sera marqué. L'impression est profonde et il va devenir, à partir de là, tout particulièrement, le prophète de la sainteté de Dieu. Je ne vous cache pas que quand j'étais étudiant en théologie, le livre du prophète Ésaïe était un des livres que j'aimais le moins. Parce que c'est un livre volumineux dans les Écritures, qui traite de beaucoup de choses concernant les nations, et j'avais peur aux examens d'être interrogé sur le prophète Ésaïe. Je bénis Dieu d'être allé plus loin depuis. Parce que c'est extraordinaire ce prophète Ésaïe, prophète de la sainteté de Dieu. Savez-vous que dans le prophète Ésaïe, Dieu est appelé par Ésaïe, sur l'ordre de Dieu qu'il inspire, 30 fois le saint. 30 fois. 30 fois le saint, ce qui est une très très forte dominante pour les Écritures dans la vie d'un seul serviteur. Ésaïe 57,15 dit « Son nom est saint, il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Quelqu'un a écrit « Plus on se rapproche du ciel, plus on est conscient de l'enfer. » Dit d'une autre manière, les plus grands saints sont les plus grands pécheurs.
Bien sûr, il s'agit de bien comprendre cette phrase. Ça ne veut bien entendu pas dire que les plus grands saints sont ceux qui se délectent dans le péché. Mais ce sont les plus grands pécheurs dans le sens que ce sont ceux qui ont le plus de sensibilité et de connaissance de leur propre nature. Et ce sont les plus grands saints parce que ce sont ceux qui vivent précisément le plus près de Dieu. Et vous ne pouvez pas vivre près de Dieu sans expérimenter cette dimension-là. Tous les serviteurs dans les Écritures qui ont expérimenté à un moment donné ce qu'Ésaïe a expérimenté ont été touchés à jamais et ont pris conscience de leur propre état, de leur vulnérabilité, de leur fragilité, de la manière dont les choses les plus nobles, les dimensions les plus spirituelles dans leur vie étaient polluées par le péché. Ça, c'est une des choses qu'on découvre après sa nouvelle naissance. Dans les premiers temps de sa nouvelle naissance, et là, ça peut durer parfois longtemps, on vit encore dans l'illusion qu'on est quelqu'un de bien. Et puis, peu à peu, on va de désillusion en désillusion sur soi-même. Parce qu'après les temps de l'exaltation viennent ceux du désert, où on fait connaissance avec ses incapacités et avec son besoin absolu de dépendance de Dieu. Un jeune pasteur dit un jour à un prédicateur plus âgé qu'il connaissait, il dit qu'il connaissait quelqu'un qui prétendait pouvoir passer plusieurs jours sans pécher consciemment. Il demanda ensuite à ceux qui avaient plus d'expérience si l'évaluation que cet homme avait de lui-même était correcte. Les yeux brillants d'une intensité qui révélait une profonde conviction, l'autre répondit « Non, monsieur. Celui qui a vu l'exquise sainteté de Dieu ne parlerait certainement pas de cette manière. » Et je pense que c'est l'expérience qu'a vécue en particulier, entre autres, cet homme de Dieu qu'on a appelé le père des missions modernes, William Carey. William Carey qui a merveilleusement œuvré pour le Seigneur, traducteur de la Bible en totalité ou en partie en plus de 40 langues et dialectes. C'est de lui que viennent ces paroles bien connues. « Attends-toi à de grandes choses de la part de Dieu et accomplis de grandes choses pour lui. » Oh, il a aussi connu bien des souffrances, 6 ou 7 années avant que il voit la première nouvelle naissance et puis l'imprimerie et toute une partie de ses traductions à brûler, ce qui a alors soulevé un intérêt extraordinaire en Grande-Bretagne où les chrétiens jusque-là étaient tout à fait restés fermés à son activité spirituelle parce qu'on n'avait pas la vision des missions. Et c'est là que ça a changé. Et âgé, le jour de son 70e anniversaire, William Carey écrivit à son fils les mots suivants. Écoutez. Âgé de 70 ans aujourd'hui, je suis comme un monument qui célèbre la miséricorde et la bonté de Dieu. Car j'ai beau repasser ma vie devant mes yeux, je trouve beaucoup, oui vraiment beaucoup de choses, pour lesquelles je devrais m'humilier dans la poussière. Mes péchés directs et positifs sont innombrables. J'ai fait preuve d'une grande négligence dans l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas défendu sa cause, ni recherché sa gloire et son honneur comme j'aurais dû. Malgré tout cela, j'ai été épargné jusqu'à ce jour. Je suis encore actif dans le champ missionnaire et j'ai cette ferme assurance que c'est par Christ que j'ai obtenu toutes les faveurs divines. Un homme de Dieu connu pour
l'intensité de sa consécration jusqu'à la fin de ses jours, et que Dieu a préparé magnifiquement dans son échoppe de cordonnier, où il avait fabriqué lui-même une carte du monde sur laquelle il inscrivait ici et là tout ce qu'il apprenait à son époque, n'est-ce pas, sur la situation de ces pays pour pouvoir prier jusqu'à ce que finalement Dieu l'appelle et l'envoie. Pas d'impeccabilité. Et c'est là parfois qu'on a quand même de la peine à concevoir toute cette question de la seconde bénédiction qui existe dans certaines tendances de l'Église de Jésus-Christ. Seconde bénédiction qui, après la nouvelle naissance, à un moment donné, fait que désormais on ne péchera plus. J'ai rencontré un serviteur de Dieu avec lequel j'ai pris un repas qui avait ses convictions. Et tout récemment, nous étions invités dans une église qui a été gravement divisée à un moment donné parce que le responsable de cette église avait pris cette tendance-là. Ronald Dunn, celui qui a nous a laissé ce livre remarquable « Quand le ciel est silencieux », ce pasteur, serviteur de Dieu américain qui a perdu son fils suicidé pendant son ministère, qui a fait 10 années de dépression profonde, etc., qui est auprès du Seigneur maintenant depuis relativement peu de temps, et nous avons 3 livres traduits en français. Les 2 premiers sont excellents, le 3e est problématique. Mais enfin. Et Ronald Dunn a écrit ceci justement dans le 3e. « Quand j'étais adolescent, mon pasteur nous rapporta cet incident. Il marchait dans la rue principale de notre ville et rencontra un autre pasteur. Son fils de 8 ans l'accompagnait. Ils conversèrent et l'autre pasteur lui dit « Vous savez, frère, j'ai reçu la seconde bénédiction. La vieille nature pécheresse a été éradiquée. Je ne pêche plus, plus depuis 3 ans désormais. » Mais un petit garçon reste un petit garçon. Et son fils âgé de 8 ans qui était là, de lever les yeux vers mon pasteur en s'écriant « Surtout ne le croyez pas !» Mais bien aimé, c'est l'heure de le redire dans le cadre de la fin de cette étude pour cette année. Nous sommes heureusement, béni soit Dieu, délivrés de la condamnation du péché. Nous sommes heureusement, béni soit Dieu, délivrés de la puissance du péché. Romains chapitre 6 à 8 est tellement extraordinaire à cet égard. Mais nous ne sommes pas délivrés de la présence du péché. Nous attendons le salut dans sa plénitude absolue, parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés, l'espérance qui n'est pas espoir, qui est certitude, mais espérance parce que le salut dans sa totalité, dans sa perfection absolue, il est pour demain, lorsque, débarrassé enfin de ce corps et de tous les soucis de la vieille nature, nous aurons un corps nouveau et nous serons pour l'éternité avec notre bien-aimé Sauveur. En attendant notre vieille nature, ce que la Bible appelle par exemple la chair. Alors, la chair a plusieurs sens, il y a 5 sens possibles, mais le sens essentiel, c'est celui qui nous intéresse. Et certains d'entre vous savent que j'aime utiliser cette expression de la maréchale Booth, l'hippopotame moi. En hébreu, le mot chair, c'est bazar. Et c'est vrai que la chair, dans ce sens, est un drôle de bazar. Alors, c'est vrai que la vieille nature a été crucifiée, c'est vrai, c'est vrai. Mais nous devons la maintenir sur la croix. par la puissance du Saint-Esprit, par tous les moyens de grâce que Dieu nous donne. Mais et vous savez ce qui se passe, hein? La vieille nature, je me souviens, en 1995, nous étions au Liban et en Syrie. Et au Liban, nous nous promenions dans les montagnes du Liban, à un moment donné, tout près du lieu où nous logions. Et subitement, je me retourne sur le chemin pour regarder le paysage. Et qu'est-ce que je vois? À très peu de distance de moi, un poulet qui courait sans tête. J'avais deviné le geste et je pense que c'est à cause de cela que je me suis retourné. Le geste de celui qui venait de lui couper la tête. Mais le poulet faisait ce que tous les poulets font quand on leur coupe la tête. Ils sont encore animés d'une vie qui s'en va très vite, les nerfs fonctionnent encore. Alors on les voit, d'abord c'est à peu près cohérent, puis ça finit en queue de poisson. Mais c'est ça notre drame encore ici-bas. Un disciple de Jésus-Christ en bonne santé ne se complaît pas dans le péché. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à voir avec le péché. Il est dans le combat. Et si l'apôtre Paul s'appelait lui le premier des pécheurs, c'est précisément parce que son intimité avec Dieu le rendait plus sensible dans la lumière de Dieu à l'existence dans sa propre vie de ses zones d'ombre. Et finalement, la nécessité de l'écharde dans la chair, qui ne l'a pas quitté. Parce que Dieu connaissait pour l'apôtre Paul, comme pour chacun de nous, la nécessité de l'écharde dans la chair à cause de notre propension à l'orgueil, les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre. Et je termine, Ésaïe 6, versets 6 et 7, parce que c'est tellement beau. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit : ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Nous avons évoqué Osée en fin de matinée. Osée 11, 8, 9, écoutez ce beau passage. « Que ferai-je de toi, Éphraïm ?» Le nom donné au royaume du Nord, essentiellement dans le livre d'Osée, parce qu'Éphraïm en était la tribu principale, prestigieuse. Donc c'est la partie prise pour le tout. Mais Éphraïm, qui paraît, je crois, une quarantaine de fois à peu près dans le livre d'Osée, qui veut dire fécond, fécondité, pleine de fruits. Parce que Osée, de la part de Dieu, va souligner la stérilité. Toi qui t'appelles Éphraïm, qui devrait être pleine de fruits, qui devrait être fécond, tu es stérile à cause de ton péché. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Ce sont les villes du bassin de Sodome et Gomorrhe et qui ont disparu en même temps que ces deux grandes cités. Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions, toutes mes entrailles sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Et là où on s'attendrait, je suis le Saint, on voit le feu, on voit la colère, on voit le Dieu vengeur, le feu dévorant. Non, je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Une fois de plus, la grâce qui fait partie de la sainteté de Dieu. Et bien entendu, en filigrane, derrière ces versets 8 et 9, nous voyons qui ? Jésus. C'est une annonce de Jésus. Si la colère nous est épargnée, c'est à cause de Jésus. Vous avez l'autre texte d'Ésaïe 57,15, car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais, je suis avec l'opprimé, l'homme contrit qui est humilié dans son esprit. Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Mes amis, le Dieu Saint, Il se présente comme le Dieu saint. Et après avoir proclamé sa sainteté, elle dit, mais je ne suis pas un Dieu apathique, je ne suis pas un Dieu froid, un Dieu insensible, comme les divinités païennes, n'est-ce pas? Mon cœur vibre. J'aime ce peuple et je l'aime d'un amour, le recette de Dieu, d'un amour constant, d'un amour qui ne fluctue pas au gré de ses caprices. Je t'aime d'un amour éternel, dira le prophète Jérémie de la part de Dieu. N'est-ce pas? C'est pour cela que je te conserve mon recette, ma bonté. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, mon alliance de paix ne saurait chanceler, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas beau? Toujours dans l'ancienne alliance se profile le sacrifice de Jésus. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité, 1 Pierre 1, 22. C'est la régénération. Et la régénération se profile déjà dans l'ancienne alliance. Et je termine simplement, cela me touche beaucoup, en disant ceci, c'est que Dieu, dans le livre du prophète Ésaïe, est appelé généralement, pratiquement dans tous les cas, sauf un, le Saint d'Israël. Mais il est aussi appelé une fois le Saint, j'ose à peine le dire, de Jacob. Ésaïe 29, verset 23. Sur 30 fois, une fois, le Saint de Jacob. Les autres fois, le Saint d'Israël. Alors le Saint de Jacob, ça fait quand même bizarre, hein? Après tout ce que nous avons dit sur le Dieu Saint, le Saint, voire accolé à ce qui est l'essence même de Dieu, Israël, mais encore mieux, Jacob, qui avait un doctorat en calcul mental, un procédurier, menteur jusqu'à la moelle, tricheur, assoiffé de la bénédiction de Dieu, ça c'était ce qui a fait que Dieu a pu le transformer. Mais vous rendez compte, le Dieu de Jacob, le Saint de Jacob. Je suis heureux de terminer par là cet après-midi et cette série, parce que moi, j'ai pas pu m'empêcher de changer le texte et de dire que Dieu est le Saint de Maurice Necker. Dieu est le Saint de Maurice Necker. Le Dieu séparé. Le Dieu transcendant. Le Dieu unique. Rappelez-vous tout ce qu'on a dit dans cette journée. Ce Dieu-là me sauve, m'unit à lui et me transforme. Vous trouvez pas ça extraordinaire? Dans ce prophète Ésaïe, chaque fois que vous voyez le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, mettez en dessous votre nom. Comment Dieu a accepté dans l'amour de sa sainteté, n'est-ce pas, à cause de la croix, de nous unir étroitement à lui et de nous transformer pour qu'il y ait une ressemblance entre nous et lui. Il n'est pas n'importe quel père et quel Dieu. Il ne se conduit pas n'importe comment. Nous nous arrêtons là et nous laissons à Dieu la suite de cette étude. Mes amis, il est rare que j'arrive au bout d'une étude. Mais parce que la Bible est comme ça, c'est le livre de Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons prier. Merci, merci. Nous ne savons comment te le dire. Nous nous réjouissons de ce que, là-haut dans ta gloire, nous aurons le langage adéquat pour exprimer sans limitation et sans retenue notre adoration. Et ce sera merveilleux, Seigneur, de ne pas avoir de limite du tout dans notre communication avec toi. Seigneur, merci pour ce que nous avons pu toucher encore de loin, de la beauté, de la richesse insondable de ta personne. Toi, le Dieu trois fois saint. Et nous te bénissons ensemble et individuellement pour la conclusion que tu nous as laissée, puisque non seulement tu as été le saint d'Israël, le saint de Jacob, et à une période où, hélas, Israël était si loin de toi. Seigneur, merci. Merci d'avoir accepté dans ta grâce d'accoler mon nom et mon histoire à côté de l'essence même de ta personne. Le saint de Maurice, le saint de Paul, le saint de Françoise, le saint d'Alfred, de chacun d'entre nous. Seigneur, lorsque nous réalisons tant soit peu ce que cela signifie, nous sommes émus, bouleversés et tellement reconnaissants de ce que, après que nous ayons prononcé ce malheur à moi, tu nous appelles. Tu nous appelles à te servir. Me voici, voulons-nous te répondre avec ton serviteur, le prophète Ésaïe. Me voici, envoie-moi. C'est dans le nom du Seigneur Jésus et à cause de ce ministère permanent du Saint-Esprit qui oriente nos regards, notre pensée vers toi et vers ton Fils bien-aimé. C'est au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit que nous venons de te prier.